Alors, la bibliothèque en vadrouille, ce soir, à l'issue de la projection d'une contre-histoire de l'Internet, un petit temps d'échange avec Julien Goetz. Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, plutôt, maintenant, vu l'heure tardive. Donc, vous venez d'être invité, dans le cadre du mois du documentaire, à accompagner ce film pour lequel vous êtes co-auteur. Et donc, j'avais envie de rebondir en vous posant quelques petites questions après le débat qui a déjà eu lieu. Et notamment, une première question... pour vous demander un petit peu comment avez-vous défriché parmi les nombreux témoins, en particulier toute une série de témoins qu'on peut qualifier de représentatifs des activistes, notamment les personnes qui sont issues de Computer Commando ou un autre activiste berlinois qui témoigne dans le film. En fait, comment vous les avez découverts? Est-ce que c'est par votre propre connaissance de ces réseaux-là ou en, voilà.
Alors, il y a un des activistes, c'est le Chaos Computer Club, c'est Andy Muller-Magoun, qui est un des membres importants du Chaos Computer Club. L'autre, c'est Stéphane Urbach, qui est un des membres de Telecomix, qui est effectivement, lui, basé en Allemagne, mais Telecomix est une sorte de nébuleuse, un groupement de hackers international. En fait, on les a rencontrés en enquêtant. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de recherche sur l'histoire d'Internet d'après l'angle qu'on avait défini, c'est-à-dire comme essayer de trouver des gens qui défendent cet outil-là comme étant un outil de préservation de la liberté d'expression. Une partie de ce travail documentaire est partie d'une constatation qui était en fait l'idée que la liberté d'expression est inscrite dans les droits de l'homme depuis quelque temps maintenant, dans la déclaration des droits de l'homme, mais qu'elle n'est vraiment devenue concrète que grâce à l'avènement d'Internet. C'est-à-dire qu'avant ça, on avait la liberté d'expression, mais on ne pouvait pas l'exercer. On pouvait parler, mais on n'était pas entendu par beaucoup. Internet a permis cette chose-là, et avec l'arrivée de cette chose-là est arrivée évidemment une volonté de contrôle de la parole. Et donc on a cherché, nous, des gens qui cherchaient à défendre cette liberté d'expression. Et c'est comme ça, au fil de cette enquête, qu'on est tombé sur l'histoire du Chaos Computer Club, qui est une histoire très connue, qui est effectivement un des premiers grands groupes de hackers
en
Allemagne. Oui. Et puis ensuite, effectivement, on est naturellement rentré en contact avec les gens de chez Telecomix parce que c'était un groupe de hackers important au moment des printemps arabes qui a permis à ce que Internet reste viable au moment où des gouvernements, comme le gouvernement égyptien, ont décidé de couper complètement le réseau. Bah, eux, ils ont réussi à remonter le réseau pour dire non, on a le droit de s'exprimer, ça fait partie des droits humains et donc on va, nous, agir pour que ce droit persiste pour toutes les populations. Si possible. Donc voilà comment on en est arrivé à les contacter eux. Ça nous semblait juste par rapport à l'angle du documentaire qui était vraiment d'essayer de trouver des gens qui défendent Internet comme un outil de libération, comme un outil de droit à utiliser la liberté d'expression.
Alors, après le point de vue des activistes donc, que vous donnez à entendre, il y a aussi à un moment donné un passage intéressant qui est le point de vue d'un artiste. Alors, vous allez me remémorer son nom, j'ai retenu juste sa nationalité. C'est un Estonien. Et il me semble même avoir reconnu l'exposition dans laquelle vous avez filmé. Il me semble que c'était à la Gaîté Lyrique, puisque j'ai eu la chance de découvrir cette installation moi-même lors d'un passage à Paris. Et avoir également entrevu, c'est pour ça que je me permets de faire l'incise, une pièce d'un collectif d'artistes que nous avons la chance d'avoir dans notre collection à l'espace multimédia Gantner d'œuvres d'art numérique. C'est les Beatnik Median Group, des artistes suisses, je crois. Et donc j'ai aperçu leur mallette, leur fameuse mallette qui permet de collecter les données. Donc c'était un clin d'œil à notre lieu et donc à leur travail. Et donc là, j'interromps la parenthèse pour vous demander quel était justement pour vous dans la construction du film le rôle justement de cette parole des artistes qui sont peut-être pas si connus que ça, mais beaucoup d'artistes travaillent sur ce sujet-là, la société de contrôle et les données.
Alors effectivement, alors j'arrive pas à me rappeler de son nom à cet artiste estonien, ça me reviendra peut-être, mais c'était assez naturel parce que quand on fait un travail documentaire comme ça, on j'allais dire on ratisse large, mais voilà, on récolte toujours une matière beaucoup plus large que ce qu'on va utiliser vraiment au final dans le film. Et effectivement, quand on a vu cette exposition à la Gaîté Lyrique, on s'est dit que on s'est dit que ça valait le coup d'aller le rencontrer, discuter avec lui, tester son installation, parce que ça nous permettait de mettre en image. C'est quand même une question récurrente quand on fait un film, de se dire ok, alors on peut se dire nous quand on écrit le film, non mais c'est fou, on collecte de plus en plus de données sur nous, mais après à un moment donné, c'est la question de, on va pas juste pouvoir se filmer nous-mêmes en train de le dire. Il va falloir trouver comment le mettre en image, et quand on a découvert cette installation-là, on s'est dit que c'est peut-être l'occasion d'avoir une mise en perspective et une mise en image intéressante de cette question-là. Et il se trouve que c'était le cas, donc voilà, c'est pour ça qu'on est allé le filmer à ce moment-là.
Très bien, alors maintenant l'ultime question, elle sera assez simple, c'est puisqu'on est devant ici la petite table de documents que notre collègue Stéphanie donc, a élaboré, avec en grande partie quelques-uns des ouvrages de notre fonds spécialisé. Donc on avait choisi avec Stéphanie quelques ouvrages un petit peu emblématiques, notamment L'éthique à cœur, un ouvrage édité il y a déjà quelques années, Le Hacking Dictionary, et puis un petit ouvrage clin d'œil qui n'était pas tout à fait dans le sujet, mais qui montre un autre centre d'intérêt de votre co-auteur, en l'occurrence Jean-Marc Manac, qui avait écrit ce petit opuscule chez Paris Expérimental, Les rapports vert-gris et vert-de-gris, donc autour du cinéma expérimental en France dans les années 70. Donc tout ça pour vous demander si vous, évidemment, j'imagine que dans vos lectures, vous êtes sûrement baigné par des textes, et donc si vous auriez un texte à nous recommander, fiction, essai, récent ou pas, voilà.
Alors, je peux me permettre d'en donner plusieurs ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que la question est un peu réduite mais c'est quelques-uns.
En fait, le premier qui m'est venu, c'est un livre qui s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique, de la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brandt, un homme d'influence ». C'est un livre qui a été écrit par un Américain, Fred Turner, qui a été traduit en français aux éditions C et F, qui est un livre fascinant, parce qu'il raconte le parcours de cet homme, Stewart Brandt, qui a navigué entre les groupes hippies, entre les scientifiques qui ont créé les premiers ordinateurs, qui ont créé les débuts du réseau Internet, entre les libertariens qui ont fondé Wired, entre plus tard les premiers entrepreneurs qui ont investi sur elle. Stewart Brandt, c'est vraiment quelqu'un qui a navigué un peu dans ce réseau-là et qui a interconnecté les gens entre eux et qui a permis de créer... c'est pas lui qui est à l'origine d'Internet, mais il a permis des hybridations et des croisements qui sont pas pour rien dans ce qu'est Internet aujourd'hui. Donc c'est une histoire fascinante et qui raconte vraiment de manière assez extraordinaire le parcours de cet homme-là. Donc je redonne le titre, « Aux sources de l'utopie numérique » aux éditions C et F, écrit par Fred Turner. L'autre truc qui m'est venu, c'est un texte que vous trouverez de manière librement disponible sur Internet, qui s'appelle « Le droit de lire », qui a été écrit par Richard Stallman, qui est une fiction, qui est une fiction dystopique, donc qui se situe dans un futur pas si lointain, où la fermeture des outils numériques nous empêcherait de lire. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est une courte nouvelle, donc ça se lit assez rapidement et c'est assez intéressant sur le sujet. Et j'en avais un troisième, oui, le troisième évidemment, dont provient le titre indirectement du film, Une contre-histoire de l'Internet. Je vais juste vérifier le titre exact.
Donc, pendant que vous vérifiez, je précise juste que pour le Fred Turner, ça tombe très bien parce que nous l'avons déjà dans la médiathèque, donc les auditeurs du présent billet pourront l'emprunter dès après-écoute de l'entretien.
Et donc le dernier, c'est une histoire populaire des États-Unis qui a été écrit par Howard Zinn, qui est une histoire des États-Unis racontée du point de vue des perdants, mais c'est pas le mot juste, du point de vue des plus faibles, on va dire, du point de vue des Indiens, du point de vue des travailleurs, du point de vue du point de vue des citoyens de base, et non pas le récit des gagnants, mais le récit aussi des perdants ou de ceux qui ont eu à payer des lourds tributs dans la construction de cet État américain. C'est un livre passionnant Et c'est un livre qui nous a indirectement inspirés, puisque nous, on a voulu un peu reprendre la même démarche pour Internet et dire on va raconter Internet non pas à travers ces gros géants économiques qu'on connaît aujourd'hui, que sont Facebook, Google et autres grosses entreprises. On ne veut pas raconter une histoire économique d'Internet, mais on veut raconter une histoire de ceux qui l'ont créé, de ceux qui l'ont porté. Donc une histoire du point de vue des utilisateurs et non pas du point de vue de ceux qui le rentabilisent. Et donc on s'est un peu mis dans, avec toute modestie dans la démarche de Warzine, dans cette logique historique-là. Ouais.
Parfait, alors peut-être quand même encore une ultime question, même si ça aurait dû peut-être être la première, pour vous demander en fait, de vous présenter un peu plus globalement, puisque ce soir je vous ai présenté comme le co-auteur du film, mais pour avoir un peu parcouru vos activités, vous êtes, je crois, journaliste et vous avez aussi d'autres activités au niveau plutôt de l'animation, notamment un projet que j'ai vu dans votre site qui s'intitule Le Liseur. Donc voilà, peut-être essayer de vous présenter, bon c'est difficile comme question, et puis également, c'est toujours difficile de résumer quand on a plusieurs activités, et évoquer aussi, en profitant d'une des questions d'un spectateur de ce soir, votre prochain projet qui va, si je ne dis pas de bêtises, tourner autour de l'intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de choses. Alors, pour une dernière question.
Je vais me présenter rapidement. Moi, je travaille comme auteur, comme réalisateur, comme journaliste un peu, mais je me considère plus comme auteur que comme journaliste, parce que je trouve que le travail d'enquête journalistique est un travail très spécifique. Je connais des gens qui font ça parfaitement bien. Moi, je pense que je suis un petit peu à côté de ça. Donc voilà, je travaille aussi comme comédien. Je travaille dans le documentaire, mais je travaille aussi dans la fiction. J'ai un peu une tendance à travailler dans tout ce qui me permet de raconter, de manière générale, d'où le Liseur, qui est un projet personnel, pour le coup, qui est un peu en stand-by depuis quelques temps, mais qui est un projet de lecture dans des lieux publics. Voilà, donc je prenais des textes que je trouvais touchants, intéressants, évocateurs. J'ai lu d'ailleurs Le Droit de lire, qui est sur le Liseur. Et je les lisais dans des lieux publics, n'importe où. Je me posais avec mon enregistreur, puis j'enregistrais, je mettais ça sur le site. Voilà, après, sur les projets à venir, effectivement, je travaille actuellement sur un projet qui est en stade de développement. Donc c'est un premier stade de travail autour de l'avenir du travail à travers la question de l'intelligence artificielle. Donc en quoi ça va modifier le monde du travail et en quoi il commence à être important de penser autrement le travail et donc la rémunération et donc la redistribution des richesses et donc très rapidement beaucoup de choses dans notre société. Il y a des gens qui réfléchissent à ça et c'est assez fascinant. Et puis je travaille aussi sur un format documentaire court qui s'appelle Datagueule, voilà, qui est un format diffusé sur YouTube par France Télévisions et qui travaille avec les données pour essayer de déconstruire les mécanismes du monde dans lequel on vit, essayer de mieux les comprendre, grosso modo, les mettre en mouvement un peu. Voilà.
Parfait, ben merci à vous Julien d'avoir pris ce petit temps et bonne continuation donc, dans vos nombreuses activités. Merci.